Alors aujourd'hui, je vais vous lire un texte de des entretiens de mère de 1955, du 28 décembre 1955, la consécration de soi. Alors cet entretien est basé sur le chapitre 2 de la synthèse des yogas, la concentration, la consécration de soi. Alors la question d'un de ses élèves, douce mère, qu'est-ce que c'est une concentration ouverte à tout ce qui caractérise essentiellement le yoga intégral? Une concentration ouverte. La réponse de mère. Non. Une concentration qui est ouverte à tout ce qui est, c'est une concentration qui ne s'oppose à aucune chose. Ce n'est pas une concentration ouverte. C'est une concentration qui est ouverte. Cela veut dire qu'il ne faut pas rejeter de soi certaines choses et une concentration exclusive sur un point donné en négligeant toutes les autres. Toutes les possibilités doivent être admises et poursuivies. Deuxième question. Ici, il est écrit « Notre seul objectif doit être le divin lui-même, vers qui, le sachant ou non, quelque chose de notre nature cachée aspire toujours. Quelque chose. Quelle est cette chose, douce mère, qui aspire? » C'est la partie de notre être qui n'est pas toujours la même dans tous et qui est instinctivement ouverte à l'influence psychique. Il y a toujours une partie, quelquefois, très voilé, dont nous ne sommes pas conscients. Il y a toujours dans l'être quelque chose qui est tourné vers le psychique et qui reçoit son influence. C'est ce qui est l'intermédiaire entre la conscience psychique et la conscience extérieure. Ce n'est pas dans tout le monde la même chose. Dans chacun, c'est différent. C'est le point de sa nature ou de son caractère par lequel il peut toucher le psychique, où il peut recevoir l'influence psychique. Cela dépend des gens. Pour chacun, c'est différent. Chacun à un point comme ça. On peut sentir aussi qu'il y a certaines choses qui tout d'un coup vous poussent, vous élèvent au-dessus de vous-même, ouvrent comme une porte sur quelque chose de plus grand, de plus vaste. Cela peut être beaucoup de choses et cela dépend de la nature de chacun. C'est la partie de l'être qui s'enthousiasme pour quelque chose et c'est cette capacité d'enthousiasme. Il y a deux choses principales. Celle-là, la capacité de s'enthousiasmer qui fait qu'on sort de son inertie plus ou moins grande pour se jeter d'une façon plus ou moins totale dans la chose qui vous enthousiasme, comme par exemple l'artiste pour son art, le savant pour sa science. En général, toutes les personnes qui créent ou qui construisent à une ouverture, l'ouverture d'une faculté spéciale, d'une possibilité spéciale, qui créent en vous un enthousiasme. Quand cela peut être actif, alors quelque chose de l'être s'éveille il y a une participation de presque tout l'être à la chose faite. Il y a ça. Puis il y a ceux qui ont une faculté innée de gratitude, ceux qui ont un besoin ardent de répondre avec chaleur, dévouement, joie, à quelque chose qu'ils sentent comme une merveille qui est cachée derrière toute la vie, derrière le moindre petit élément, le moindre petit événement de la vie, qui sentent cette beauté souveraine et cette grâce infinie qui est derrière toute chose. J'ai connu des gens qui ne savaient pour ainsi dire rien, qui n'étaient pas très éduqués, dont le mental était d'une qualité tout à fait ordinaire et qui avaient en eux cette immense capacité de gratitude, de chaleur qui se donne, qui comprend et qui remercie. Et bien pour cela, le contact avec le psychique était très fréquent, presque constant. Et dans la mesure où ils en étaient capables, étaient conscients, pas très conscients, mais un peu conscients, dans le sens qu'ils se sentaient portés, aider, soulever au-dessus d'eux-mêmes. Alors je répète, et bien pour eux, le contact psychique était très fréquent, presque constant, et dans la mesure où ils en étaient capables, étaient conscients, pas très conscients, mais un peu conscients, dans le sens qu'ils se sentaient portés, aider, soulever au-dessus d'eux-mêmes. Ce sont les deux choses qui préparent le plus les gens. Ils sont nés avec l'une ou avec l'autre. S'ils en prennent la peine, ça se développe petit à petit et s'agrandit. Nous disons la capacité d'enthousiasme. Quelque chose qui vous projette en dehors de votre petit ego misérable et mesquin. Et la gratitude généreuse, la générosité de la gratitude qui se jette aussi en reconnaissance en dehors du petit ego. Ce sont les deux plus puissants leviers pour entrer en contact avec le divin dans son être psychique. C'est ça qui sert de lien avec l'être psychique, le lien le plus sûr. Douce mère, question. Est-ce que dans les êtres les plus vilains, il y a quelque chose qui aspire? Dans les êtres les plus vilains? Oh oui, mon petit, même dans les Asuras, même dans les adversaires, même dans les monstres, il y a quelque chose. Il y a toujours un coin, une sorte de faille, un point sensible que généralement on appelle une faiblesse. Mais celle-là, c'est la force de l'être, le point par lequel ils peuvent être touchés. Parce que même dans l'être le plus obscur et le plus dévoyé, même dans celui dont la volonté consciente est de lutter contre le divin, malgré eux, malgré tout, leur origine est divine. et ils ont beau faire, beau essayer de se couper de leur origine, ils ne le peuvent pas. Volontairement, consciemment, ils essayent tout ce qu'ils peuvent, mais ils savent très bien qu'ils ne le peuvent pas. Même l'être le plus monstrueux, il y a toujours un moyen de le toucher. Le divin, l'action du divin dans le monde, agit toujours comme une limite à l'excès du mal, et en même temps donne une puissance illimitée au bien. Et c'est cette puissance illimitée du bien qui est entièrement dans la manifestation, sert de limite à l'expansion du mal. Naturellement, pour la vision très limitée des êtres humains, il paraît quelquefois que le mal n'a pas de limite et qu'il va jusqu'à son maximum. Mais ce maximum lui-même est une limite. Il y a toujours un arrêt, parce qu'il y a un point où le divin se dresse et dit « Tu n'iras pas plus loin ». Que ce soit les grandes destructions de la nature, ou les monstruosités des hommes, il y a toujours un moment où le divin intervient et empêche que ça aille plus loin. Un long silence de mer. Douce mère, question. Ceux qui ont cette aspiration sans le savoir, est-ce qu'ils progressent aussi sans le savoir? Oui, oui. Question. Alors tout le monde progresse toujours, n'est-ce pas? D'une certaine manière, réponse de mère, oui. Seulement, ça ne peut pas être apparent dans l'existence. Parce que, quand il n'y a pas la participation consciente de l'être, le mouvement est relativement lent. Même relativement vis-à-vis de la courte durée de la vie humaine. Et alors, il se peut très bien que, par exemple, au moment de la mort, un être semble ne pas avoir progressé, et même quelquefois il semble avoir été reculant, avoir perdu ce qu'il avait au commencement de sa vie. Mais si on prend la grande courbe de la vie de son être psychique, à travers beaucoup d'existences, il y a toujours un progrès. Chaque expérience qu'il a eue dans une de ses existences physiques lui sert à faire un progrès. Mais c'est l'être psychique qui progresse toujours. L'être psychique, dans l'état où il est maintenant, est bien arrivé à un certain point d'ascension, il redescend. Il y a des choses qui ne peuvent pas redescendre d'une façon grossière. Mais enfin, il redescend. On ne peut pas le nier. L'être vital, pas nécessairement. Et l'être mental, non plus. L'être vital, s'il sait se brancher sur la force universelle, peut très bien n'avoir aucune rétrogression. Il peut continuer une ascension, et l'être mental, c'est tout à fait certain. Il est complètement libre de toute dégénérescence s'il continue à se développer normalement. Alors ceux-là font toujours des progrès tant qu'ils restent coordonnés et sous l'influence psychique. Ce n'est que dans l'être psychique qui croît et qui se décompose, mais cela provient de son manque de plasticité et de réceptivité. Et par sa nature même, ce n'est pas inévitable. Par conséquent, il y a toujours un lieu de croire qu'à un moment donné, à mesure que la conscience physique elle-même progressera consciemment et volontairement, eh bien, dans une certaine mesure, et de plus en plus, le corps lui-même pourra d'abord résister à la déchéance, qui doit évidemment être le premier mouvement, et puis, peu à peu, commencer à croître en perfection intérieure, jusqu'à ce qu'il surmonte les forces de décomposition. Mais à vrai dire, c'est la seule chose qui, pour le moment, ne progresse pas. Tout le reste est en progrès. Mais cette substance elle-même, c'est-à-dire cette substance physique, matérielle, qui se forme, qui constitue un organisme qui vit pendant un certain temps sous une forme donnée, et puis cette forme décroît et se dissout. La substance elle-même qui continue ses formes successives à travers toutes ses formes, elle progresse. C'est-à-dire que la substance moléculaire, cellulaire, peut-être même cellulaire, moléculaire et atomique, est en progrès dans sa capacité d'expression de la force et de la conscience divine. À travers tous ces organismes, cette substance devient de plus en plus consciente, de plus en plus lumineuse, de plus en plus réceptive, jusqu'au moment où elle aura atteint une perfection suffisante pour devenir un véhicule possible pour la force divine elle-même, qui pourrait se servir d'elle comme elle se sert des éléments des autres parties de la création, comme le mental et le vital. Et à ce moment-là, la substance physique sera prête pour manifester dans le monde la conscience nouvelle, la lumière nouvelle, la volonté nouvelle. À travers tous les siècles, par des vies innombrables, en passant par des organismes innombrables, servant à des expériences innombrables, elle se peut, pour ainsi dire, elle s'affine, elle se prépare et elle devient de plus en plus réceptive et ouverte aux forces divines. Alors un homme, en tant qu'être individuel momentané, peut ne pas avoir l'air de progresser, mais le progrès continue à travers lui comme à travers tous les organismes. C'est la fin du chapitre du 28 décembre. Alors, je vais vous lire la suite. C'est le 6 juillet 1955, plan est parti de l'être. Question. Douce mère, ici, il est écrit. Enfin, l'âme ou l'être psychique se retire dans le monde psychique pour s'y reposer jusqu'à l'approche d'une nouvelle naissance. Alors, mère, qu'est-ce qui arrive à l'être central après ? Cela dépend des cas. Nous avons dit que l'être central et l'être psychique, c'est la même chose. Mais la partie qui est et qui reste dans le divin est et reste dans le divin. Le psychique est la délégation de ce divin dans la vie terrestre par la croissance terrestre, pour la croissance terrestre. Mais la partie de l'être central qui est identifiée au divin reste identifiée au divin, ne bouge pas. Même pendant la vie, il est identifié au divin et après la mort, il reste ce qu'il était pendant la vie. Pour lui, cela ne fait aucune différence. C'est l'être psychique qui a des alternances d'expérience et d'assimilation, d'expérience et d'assimilation. Mais le Jivatman est le divin et reste dans le divin. Il n'en bouge pas. Et il n'est pas progressif. Il est dans le divin, il est identifié au divin, et il reste identifié au divin, mais pas séparé. Cela ne fait pas de différence pour lui, et qu'il y ait un corps terrestre ou qu'il n'y en ait pas. Deuxième question. Alors, douce mère, est-ce que l'être central de tout le monde est le même ? Non. Puisqu'on nous a dit que c'est identifié dans la multiplicité. C'est la vérité éternelle de chaque être. D'une façon, ils sont identiques. D'une autre façon, ils sont multiples, parce que la vérité de chaque être est une vérité individuelle, mais elle est identifiée au divin. C'est hors de la manifestation, mais c'est l'origine de la manifestation. C'est une unité qui n'est pas une uniformité. C'est encore la même chose que ce que j'expliquais la dernière fois. Chacun est différent et pourtant chacun est identique. Si vous absorbez le divin par des angles différents, il vous apparaît différent parce que c'est l'angle par lequel vous l'absorbez. C'est la même chose pour le manifester. Mais sous cet angle, c'est tout le même, si je puis dire, l'unité complète du divin que l'on atteint. C'est le point de rencontre qui est différent, mais au-delà du point de rencontre, c'est une totalité unique. C'est très difficile à mettre en mots, mais c'est une expérience qu'on peut avoir. C'est comme s'il y avait une quantité innombrable de portes ou de chemins par lesquels on puisse arriver au divin. Alors, quand on s'approche sous un certain angle et on entre par une certaine porte. Mais dès qu'on a pénétré, on s'aperçoit que c'est une identité unique. C'est seulement le chemin qui conduit ou l'approche spéciale qui est différent. Alors, je vais terminer avec ça. Question à mère. Alors, mère, cela veut dire que dans l'univers créé, rien de nouveau n'est ajouté. Dans l'univers créé, si. L'univers est progressif. Nous avons dit que constamment, il y a des choses qui se manifestent de plus en plus. Mais pour que votre imagination puisse aller chercher par-delà la manifestation, quelque chose qui sera manifesté, eh bien cela peut se faire. En fait, cela se fait. J'allais vous dire que c'est comme ça qu'il y a des êtres qui peuvent faire des progrès considérables dans le monde, parce qu'ils ont la capacité d'imaginer quelque chose qui n'est pas encore manifesté. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut d'abord être capable de dépasser l'univers manifesté pour pouvoir imaginer quelque chose qui n'y est pas. Il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être imaginées. Qu'est-ce que c'est que notre monde terrestre dans l'univers? C'est une toute petite chose, seulement avoir la capacité d'imaginer quelque chose qui n'existe pas dans la manifestation terrestre. C'est déjà très difficile, très difficile. Depuis combien de milliards d'années existe-t-elle, cette petite Terre? Et il n'y a pas eu deux choses semblables. Ça fait beaucoup. Il est très difficile de sortir avec son mental de l'atmosphère terrestre. On peut, mais c'est très difficile. Et alors si après on veut sortir non pas seulement de l'atmosphère terrestre, mais de la vie universelle, être capable simplement d'entrer en contact avec la vie de la Terre dans sa totalité, depuis la formation terrestre jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça peut représenter? Et puis alors, d'aller au-delà de ça et d'entrer en contact avec la vie universelle depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Et puis alors, pour pouvoir amener quelque chose de nouveau dans l'univers, il faut aller encore au-delà. Pas facile. C'est tout. Vous êtes convaincue, mère? Alors aujourd'hui, 21 juin 2017, j'offre à Douce Mère la lecture de ses entretiens de 1955. Mais je remercie toujours infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère. Merci, merci, Merci. Ganga Lakshmi.